Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant. La mode. Difficile désormais d'entendre ce mot sans voir les conditions de travail désastreuses des petites mains de cette industrie, sans percevoir les pollutions générées pour chaque jean, chaque t-shirt vendu partout dans le monde, sans voir nos ressources qui s'essoufflent tandis que nous renouvelons et gaspillons à tour de bras. La mode. Nous en avons déjà parlé ici, avec Valérie, Romain, Catherine, Jean-Marc. Mais aujourd'hui, encore plus qu'avant, j'ai le sentiment que cette conversation nous met pleinement sur la bonne voie. Mon invité est Mathieu Jungfer. Il est le cofondateur de l'atelier une marque vraiment pas comme les autres. Mathieu est entrepreneur, mais prône le moins et le mieux. Il pense à ses impacts, il fait le choix de l'économie sociale et solidaire, il cherche la prise de conscience chez ses clientes. Pour 2050, il imagine un monde à partir de constats simples et réalistes qu'il vous dévoilera dans quelques instants. Je trouve les propos de Mathieu inspirants, rassurants et humbles. Alors écoutez-le et filez découvrir l'atelier Une, le lien est en description de l'épisode. Bonjour Mathieu.
Salut, ça va ?
Ouais, très bien, bah oui, parce que je suis ravie d'être venue à ta rencontre dans le 19e arrondissement de Paris. Et justement, tu as choisi un lieu qui est forcément emblématique, on va très vite comprendre pourquoi. Où sommes-nous ?
Donc, on est dans notre showroom actuellement, donc le showroom d'Atelier Une, qui est notre marque de vêtements. Mmh. Et le showroom, en fait, est dans un espace avec d'autres associations qui sont de l'économie sociale solidaire.
Ouais.
Voilà.
Alors ça, c'est une particularité parce que Atelier Une, c'est une marque de mode, mais c'est une marque de mode de l'économie sociale et solidaire, donc avec des valeurs.
Ouais, on a des valeurs et on a aussi, en fait, des engagements légaux par rapport à nos valeurs, puisqu'on est une des seules marques à être une marque qui est une SAS avec un objectif de... Bon, je sais pas comment dire...
Un objectif social, en fait,
pour le développement durable. Mm-hmm. Donc, c'est écrit dans nos statuts d'entreprise.
D'accord. Alors, c'est une entreprise Atelier Une qui a un an.
Donc c'est ça.
Vous êtes des bébés.
C'est ça.
Et dans ce showroom, donc, on voit un espace de réservé au patron, des robes, tout ça. J'ai vu avec de très belles couleurs que j'ai tout de suite repérées parce que ce sont trois couleurs qui me vont très bien. Tout de suite, j'ai tilté. Super. Et donc, Atelier Une, avant qu'on parle de 2050, etc., c'est une marque qui a un fonctionnement extrêmement particulier. Et je veux que tu nous expliques le principe de ce Une au pluriel.
En fait, le Une au pluriel, c'est que nous, notre idée, c'est que pour être plus fort, il faut avancer pas en fait en partant d'un groupement d'individus, mais en partant d'un individu seul. Mm-hmm. Et en fait, l'amener au fur et à mesure au changement. Donc, bon, on parle quand même de changement sur la consommation de vêtements.
Oui.
Et aujourd'hui, on n'a pas trop d'idées de l'impact que ça peut avoir. Mm. Aujourd'hui, la mode, c'est quand même le deuxième ou troisième industrie la plus polluante au monde.
Exactement.
Et les gens ne le savent pas assez. Mm. Et ce qu'on se dit, en fait, c'est que si on les amène par co-créer avec nous les vêtements, on peut aussi les amener à connaître l'histoire d'un vêtement, mm-hmm. l'histoire des matières, de nos choix. Et donc, les amener à changer finalement au mieux. Quoi.
Mmh. Alors, tu as parlé de co-création. Alors, Atelier Une, c'est aussi une co-création, puisque c'est toi et Violette,
c'est ça,
qui également t'accompagne.
Ouais.
Donc, vous avez créé la marque il y a un an, et c'est ça le principe, c'est que chaque modèle, il y a d'abord, donc Violette est styliste, elle crée un modèle, et puis ensuite, il y a une phase d'échange avec la communauté de la marque pour arriver à l'objet essentiel qu'on met dans sa garde-robe et qui dure.
Voilà, le principe c'est de créer des pièces iconiques qui durent qui soit éco-responsable. Et derrière, ça, en un an, on a à peu près 10 000 personnes qui ont participé à l'élaboration de nos pièces. Mmh. Donc, c'est assez incroyable pour l'instant le mouvement qui se crée autour de ça.
Ouais. Alors, sur le site internet, on voyait une robe qui a été réalisée, une petite blouse, il y a quelques pièces. Tu me disais 4-5, c'est ça?
C'est ça.
Depuis le lancement de la marque.
Donc, c'est un peu un concept de slow fashion. Donc, c'est l'inverse de la fast fashion, où l'idée, c'est de passer du temps sur les produits parce qu'en fait... ça prend du temps de faire quelque chose de bien. Et donc, en un an, on a fait 5 pièces.
Ouais. Alors, une démarche collaborative avec les futures consommatrices. Oui, pour l'instant, on n'est que sur des marques... sur des produits pour femmes.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et dans les échanges, justement, avec cette communauté, est-ce que toutes ces femmes, ce sont déjà des militantes de la slow fashion ou ça peut être moi, n'importe qui, finalement, et ce cheminement, comment ça se fait, en fait? Est-ce que tu arrives à s'en percevoir un peu ça?
Oui, on le voit très bien. On parle, en fait, avec toutes les gens de notre communauté. Ils viennent nous voir dans notre showroom. Enfin, tout le monde peut venir, en fait. Et ce qui est cool, c'est que tu as différents types de personnes. Tu as du coup 3 types de personnes.
Ouais.
Donc la première, c'est une militante. Mmh. Elle cherche une alternative à sa consommation et elle ne trouve pas grand-chose et elle répond à nos sondages à travers ça.
D'accord.
La deuxième, c'est une personne qui a envie de donner son avis, elle a envie qu'on l'écoute finalement. Et donc elle est ravie de donner son avis sur la mode, parce que c'est quelque chose qui lui plaît. Et la troisième, c'est celle qui se considère comme experte dans la mode, qui adore la mode et tout, et elle se dit j'adore ça, je peux donner des conseils assez précis finalement sur des vêtements iconiques. Et derrière, chacune de ces types de personnes, on les amène à changer leur type de consommation.
Ouais. Alors quand on voit les volumes de vêtements qui sont jetés dans l'univers de la mode en général, à la fois quand on voit les conditions de création, on voit les scandales qu'il y a pu y avoir et qui continue d'y avoir à l'autre bout du monde, au Bangladesh, etc. Énormément de vêtements jetés, une surconsommation. Et qu'on crée son entreprise autour de la slow fashion, est-ce que ça veut dire qu'on a bien intégré que finalement l'objectif de son entreprise, ça ne va pas être la croissance à tout prix? Est-ce que ça, c'est quelque chose, ça fait partie du point de départ du projet Atelier 1?
Alors, c'est assez compliqué à répondre.
Ouais.
C'est important d'avoir une croissance forte au début, parce que tu as beaucoup de marques sur le marché.
Ouais.
Et donc, en fait, si on ne pense pas à croissance, on ne peut juste pas en vivre. Quoi.
Ouais,
finalement,
on ne peut
pas
faire sa
même
place,
pas
quoi.
Avoir de salaire sur nos marques.
Mmh.
Il faut savoir que tu as des marques que les gens considèrent comme petites, enfin, comme existantes, je veux dire, depuis 5 ans. Et les gens, ils se servent un salaire ou deux.
Ouais.
En fait, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière le shooting, derrière les vêtements, on ne se rend pas compte du back-office. Quoi.
Ouais.
Donc, c'est hyper important quand même d'avoir une notion commerciale. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai.
Ouais.
Et derrière, après, nous, on fonctionne en précommande. Et donc, du coup, on produit que ce qu'on nous achète.
D'accord. Oui, donc, la finitude de la planète, vous la fixez avec un système de finitude, c'est-à-dire il y a des précommandes et donc on part sur un volume, on n'est pas inondé, la volonté d'inonder un marché, quoi.
Après, derrière, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un impact très minime sur tous nos écosystèmes, parce que je les appelle les écosystèmes, donc tout ce qui crée le vêtement et après, de faire du recyclage. Donc finalement, en fait, ça devient de l'impact négatif. Et là, ça commence à devenir intéressant de lier la croissance avec l'impact négatif. Même si je sais que c'est assez bizarre comme manière de fonctionner, mais je pense que ça peut quand même fonctionner.
Oui, avec une logique d'économie circulaire, quoi, quelque sorte.
On croit quand même pas mal en... il faut quand même baisser sa manière de consommer. Donc ça, la décroissance est quand même hyper important pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens d'acheter d'abord des fripes et ensuite des vêtements. Et quand ils achètent des vêtements, c'est éthique, quoi.
Ouais.
Et donc, il y a des vêtements qu'on ne va jamais faire parce qu'on considère que c'est des vêtements basiques de fripes, type le jean. On ne va jamais en faire. Tout ce genre de choses-là.
D'accord. Et puis, ce qui est aussi important dans votre démarche, c'est, tu parlais d'impact sur les écosystèmes, il y a aussi le choix aussi des matières.
Ouais. Donc, rien que, par exemple, pour faire une matière, tu as on va dire, trois écosystèmes qui sont en jeu. Mm-hmm. Donc, tu as celui qui va planter la graine,
ouais.
l'agriculture, quoi. Mm-hmm. Celui qui va planter la graine, celui qui va récolter, celui qui va ensuite amener au tisserand. Donc, il va y avoir un transport, je ne sais pas.
Ouais. Mm-hmm.
La personne va tisser et ensuite, elles vont faire un tissu. Mm-hmm. Et ensuite, le tissu va être teint. Et donc, voilà, tu as trois types d'écosystèmes là-dedans qui ont chacun leur particularité. Par exemple, dans le monde, tu as 30% des pesticides qui sont utilisés pour la culture du coton.
Ouais.
Donc, rien que ça, tu te dis, on arrête le coton ou on fait du coton certifié. Enfin, mm-hmm. comment on fait, quoi.
Ouais. Et ça doit être... je me demandais, c'est quelle part de temps, justement, qu'on consacre, comme ça, quand on est une jeune entreprise, pour identifier les filières et puis la matière qui va convenir au produit.
Ben ça, c'est difficile à dire, mais je dirais on consacre quand même, pour être honnête, peut-être un cinquième de notre temps.
Mm-hmm.
C'est peut-être une journée sur la semaine,
ouais.
on va dire.
Ouais, consacré à cette recherche.
Ouais, consacré à ça, donc t'as tout, ça marche par étapes. Mm-hmm. Donc, t'as une partie de sourcing, donc aller voir les producteurs, enfin non, c'est pas aller voir les producteurs, mais c'est aller voir les matières qui sont disponibles,
mm-hmm.
machin. Ensuite, t'as la partie comment tu vas la gérer avec ton prototypage.
Ouais.
Est-ce que ça convient avec ton prototype? Parce que tu as des matières qui ne conviennent absolument pas.
Mm-hmm.
Et ensuite, est-ce que cette matière-là, elle est certifiée?
Oui.
Qui l'a fait? Comment on peut tracer? Et à la fin de ça, tu as le prix.
Oui, oui, forcément.
Combien elle coûte? Mm-hmm. Est-ce que c'est une matière qui est exceptionnellement chère? Dans ce cas-là, si on l'a fait, on ne peut rien vendre.
Mm-hmm.
Donc, tu as tous ces paramètres-là.
Oui, voilà. Après, il faut arbitrer entre tout ça.
Ouais.
Alors, je te propose, Mathieu, qu'on file vers 2050, qu'on fasse ce fameux bond de 30 ans autour de ces deux mots, mode responsable, que tu as choisi. Dans 30 ans, lorsque toi et moi, nous serons vieux, à quoi le monde de la mode pourra ressembler? La mode responsable, ça sera devenu finalement la norme?
On ne sait pas. On ne sait pas encore.
Ouais.
Moi, je dis, on est en 2050 maintenant.
Ouais. Alors, on sait qu'on va pas délivrer la vérité. Personne ne l'a, mais voilà, un futur possible.
Donc, en 2050, il n'y aura plus de pétrole. Mmh. Donc, ça veut dire que la création de plastique, la création de fibres synthétiques n'existera plus.
Mmh.
Tout ce qui sera agriculture industrielle, comme il n'y aura plus de pétrole, tout ça disparaîtra.
Mmh.
Donc, on va être... en fait, forcé de trouver des alternatives.
Mmh.
Les alternatives, on les entrevoyait en 30 ans avant.
Ouais, ouais.
Donc, ça va être tout ce qui est recyclé, recyclage. Dans le recyclage, tu as une perte de qualité, mais donc on va arriver en fait à des vêtements où on va chercher tout le temps de la qualité, mais à recycler en même temps. Donc, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. Et donc, tous nos vêtements seront recyclés, soit en fibre synthétique, parce qu'il y en a tellement qu'on en trouvera, soit en coton recyclé, et ensuite les vêtements seront locaux.
Ouais.
Donc on va trouver en fait des nouvelles matières qui seraient locales, avec lesquelles on fera nos vêtements. Donc chacun des pays en fait, ou des continents, auront leur type de vêtements particuliers.
Ouais, donc dans ce que tu décris, on aurait une véritable décentralisation de la création, et donc ça veut dire que les géants de la fast fashion, ils n'existent plus, ou ils ont été scindés pour se réancrer localement.
Oui, c'est ça. Après, tu pourras aussi faire de la reprise de vêtements.
Mm-hmm.
Donc ça veut dire qu'en 2050, à peu près tout le monde saura reprendre ses vêtements, parce que c'est hyper important.
Mm-hmm.
Parce que, en fait, si tu fais du recyclage, tu vas aussi prendre de l'énergie pour faire le recyclage.
Ouais.
Le recyclage, derrière, ça implique de détricoter son vêtement, de le trier fil par fil pour qu'il soit couleur par couleur, et ensuite de le retricoter.
Ouais.
Donc, en fait, finalement, tu as une énergie grise derrière qui est importante. Et le plus important, c'est de reprendre ses propres vêtements.
Ouais, c'est ça. Donc on réapprendra à manier le fil, l'aiguille, à savoir faire un patron, enfin des choses basiques,
ouais,
etc. Quoi.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Et finalement, tout à l'heure, on a évoqué l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2050, l'industrie de la mode, même si elle est faite de plutôt de petites entreprises comme Atelier 1, on soit un peu dans la logique de l'économie de la fonctionnalité? C'est-à-dire que l'économie de fonctionnalité, on ne vend pas un objet, on vend son usage, et qu'une marque comme une, d'accord, elle vend une robe iconique au début de la vie, et puis ensuite, elle accompagne ses clientes sur « je répare, je prends soin », etc. Ça pourrait être ça, un nouveau modèle qui soit sur « on accompagne nos clients pour que le produit dure le plus longtemps possible ».
Je ne sais pas trop répondre à ça. Mmh. Je pense que la fonctionnalité, c'est important, c'est sûr. Et ça doit être la base du vêtement. Mmh. Mais après, à partir de la fonctionnalité, tu peux faire quelque chose d'artistique, quoi. Tu peux apporter ta touche personnelle. Mmh. Et ça, c'est des problématiques qu'on voit partout dans l'architecture. Tu as aussi la fonctionnalité. Mais après, tu choisis ta couleur, quoi.
Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr.
Un truc. Et donc, du coup, le vêtement, nous, on le considère comme une expression d'une identité, d'un caractère. Donc, si c'est que fonctionnel, finalement, on arrive à des gens qui ont tous le même caractère.
Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire.
Donc, j'y crois pas trop. Mm-hmm. Je pense que les gens ont quand même envie de sortir de la norme.
Ouais.
Et peut-être que ce que je vois, c'est que ce que j'espère, c'est qu'il y aura plus de diversité sur tous les vêtements. Parce que nous, aujourd'hui, enfin, 30 ans avant, on voit quand même des sortes de normes qui se créent, je trouve, quand même. Et on peut aller beaucoup plus loin dans la diversité et dans l'expression de soi.
Ouais. Et forcément, pour plus de diversité, il faut décentraliser et revenir à des échelles, des volumes qui soient plus réduits, finalement.
Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on va redécouvrir, tu vois, des anciens imprimés français ou des anciens imprimés de je sais pas où, et qu'on va se les réapproprier. Et c'est finalement, en fait, l'anti-globalisation de la création qu'on va retrouver.
Ouais. Et est-ce que toi, tu crois avec... alors je fais le parallèle, peut-être, je ne sais pas si c'est adapté à la mode, mais les imprimantes 3D qui ont ouvert plein de possibles sur la création, la réparation d'objets, est-ce que appliqué à la mode, ça pourrait permettre aussi de justement que chacun puisse avoir sa petite touche personnelle et réinventer un milieu économique?
Ouais, carrément. Mmh. Là, pour l'instant, les industries... donc, ce qu'il faut savoir, c'est que... tu as deux types de manières de faire des vêtements. Tu as la chaîne et trame et la maille. la chaîne et trame, c'est tout ce qui est chemise, pantalon. Et la maille, c'est un peu élastique, quoi. Mm-hmm. La maille, ça va être le futur. Tout le monde se met dessus parce qu'en fait, c'est du tricot. Mm-hmm. Et tu peux automatiser ça. Ouais. Et donc, les géants de la maille, en fait, leur production est complètement automatisée par... bah, si tu veux, des sortes d'imprimantes 3D, quoi.
Ouais, ouais.
Où en fait, bah, au fur et à mesure, ils créent leurs bonnets ou des t-shirts et tout. Et donc là, oui, je pense qu'on peut aller très loin là-dedans.
Mmh. Ouais, ouais. Et alors, pour arriver à ce futur possible-là, à la fois une créativité quasiment individualisée, quelque chose de décentralisé, le pas paraît énorme face aux géants de l'industrie de la mode. Les géants qui sont à la fois la fast fashion, mais aussi les poids lourds du luxe, etc. Comment t'imagines une bascule ou une complémentarité entre ces différents mondes?
Je ne sais pas trop comment cette bascule peut se créer. Je dirais... elle commence par l'individu. Mm-hmm. Donc c'est...
C'est
ce qu'on est en train de faire avec notre marque. Mm. Ça commence par un changement de comportement pour se réapproprier sa consommation. Et ça, c'est une phrase globale qui marche pour chacun, chaque type de consommation finalement. Et dans la mode, c'est la même chose. Et donc, elle va commencer par « est-ce que je suis capable de reprendre mes vêtements ?» Et ça, c'est le début de l'enchaînement, parce que on va dire qu'une personne, elle se dit bah, « oui, je commence à en être capable, j'ai réussi à recoudre un bouton.
Ouais.
Et ben ensuite, après, elle peut se dire, ah, mais je pourrais changer de bouton, finalement, sur ce t-shirt-là, sur cette chemise-là. Ah, et ensuite, à la fin, ça devient, c'est une œuvre créatrice.
Ouais.
Et peut-être que c'est le début de cette bascule-là.
Mmh. Et c'est intéressant d'entendre un entrepreneur comme toi qui a la finalité de vendre du vêtement, donc, mais du vêtement qui dure, et à la fois de promouvoir la responsabilité et puis l'autonomie finalement vestimentaire en quelque sorte de chaque individu. C'est pas complètement antinomique pour toi.
Non, non, justement, c'est hyper important que les deux soient liés.
Ouais.
Parce que c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Mmh. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire en sorte que la création ait un impact. Mmh. Et cet impact-là, il passe par enseigner, former, quoi, finalement.
Ouais, oui, c'est ça. Et oui, les entrepreneurs peuvent répondre à ce besoin-là. Alors finalement, on peut imaginer que si on est en 2050, que... le business model de l'atelier 1, c'est pas que vendre des pièces iconiques, c'est aussi accompagner sur la reprise, etc.
En fait, là, pour l'instant, c'est comme le gouvernement en ce moment, t'as l'acte 1, ainsi que l'acte 2, quoi, tu vois. Donc l'acte 1, c'est une. Donc c'est l'individu.
Ouais.
Comment arriver à fédérer des individus vers un changement global. Mmh. L'acte 2, c'est atelier.
Ouais.
Et donc l'atelier, c'est le regroupement. Mmh. Et donc c'est former, apprendre, tout ce genre de choses-là. Quoi. Mmh. C'est ça qu'on a envie de faire.
D'accord, ok. Et justement, en termes d'horizon dans le temps, ça sera évidemment avant 2050, cette deuxième étape. Et vous, avec Violette, vous l'avez déjà, vous l'envisagez un peu dans le calendrier ou pour l'instant c'est...
Donc là, on est en 2019.
Ouais, on est revenu en 2019. On voyage beaucoup. Hein.
Alors, en septembre, on va lancer ça.
D'accord.
En fait, on va lancer avec la Maison des Canaux à Paris un mouvement sur l'atelier. Et donc, dans l'atelier, ça va être tout un système sur comment on peut avoir une prise de conscience et jusqu'à l'engagement. Mm-hmm. Et donc, l'engagement, ça va être des ateliers de do it yourself, des choses comme ça autour de... la mode et les autres types de consommation.
Mmh, très bien. Et pour revenir à la question de la mode, il y a, pour atteindre ce futur possible, il y a le changement de comportement ou de vision sur sa consommation. On n'a pas besoin d'avoir 15 jeans, 15 robes, etc. dans sa garde-robe. Mais comment on arrive justement, enfin individuellement, il y a d'abord l'envie de ne plus surconsommer et après de réapprendre aussi à faire les bons choix. Comment on réapprend aussi à constituer la garde-robe idéale finalement ? Parce que ça aussi, parce qu'en fait, on a perdu ces repères-là parce que, je sais pas, au siècle dernier, il y a 50 ans, on savait que dans sa garde-robe, fallait ça, et qu'après, globalement, on arrivait à s'en sortir. Alors que maintenant, les armoires sont pleines et tout le monde dit, moi la première, j'ai rien à me mettre ce matin. Voilà, donc il y a aussi réapprendre à qu'est-ce qui fait une garde-robe.
Ouais, pour réapprendre, pour moi, ça passe par une prise de conscience.
Mm.
Donc du coup, prise de conscience, c'est avoir conscience des impacts de nos désirs.
Ouais, ouais.
La mode, c'est beaucoup du désir et après du fonctionnel quand même.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Et donc du coup, si tu commences à te dire, là, c'est un désir et je connais l'impact de ce désir qui n'est pas super, quoi.
Mm-hmm.
Tu te distancies de ton désir et c'est gagné.
Ouais.
Tu as la même chose quand tu achètes du Nutella, quoi.
Mm-hmm. Ouais, ouais, c'est clair.
Tu connais l'impact du Nutella et tu commences à te dire, là, en fait, c'est pas très consciencieux.
Mm-hmm.
Donc, hop, tu fais un pas de recul et tu l'achètes ou tu l'achètes pas, mais...
Ouais.
Déjà, tu vas commencer à moins l'acheter, je pense.
Oui, ouais, à partir du moment où on se pose la question, déjà, normalement, on freine la consommation. Et il y a quelques années, je m'étais dit que ce serait génial de créer un faux site d'achat de fringues en ligne où quand tu cliques sur un t-shirt, par exemple, tu as le choix entre deux t-shirts, un t-shirt fast fashion et puis un t-shirt créé dans des ateliers en France avec en tencel par exemple, je sais pas trop quoi, et que quand tu cliques dessus, plutôt que de voir apparaître son prix ou des couleurs, tu vois l'impact. Voilà, l'impact en termes d'emploi, d'impact carbone, etc., pour justement aider à cette prise de conscience et montrer que il n'y a pas que il y a la question du prix, mais que ce prix, justement, de montrer tout ce qu'il cache en termes de prix. Et c'est vrai que si on réintégrait toutes ces externalités négatives dans le prix d'un t-shirt de chez H&M ou je ne sais quoi, ça me prendrait une grosse claque, quoi.
Ouais, c'est sûr que...
Le prix triplerait ou je ne sais pas, ouais. Plus même.
Nous, c'est ce qu'on va faire justement en septembre,
ouais.
Avec cet événement-là, quoi. On va en fait faire un atelier de solutions. Mmh. Donc on va dire, c'est quoi le cycle de vie d'un produit ? Donc on commence par l'agriculture, tout ce que j'ai dit avant.
Ouais.
Quelles sont les externalités négatives ? Et ensuite, bah, on va demander aux gens, tu proposes quoi, quoi ?
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu as une solution ?
Mmh.
Et ensuite, on va débattre sur les solutions. Est-ce que c'est faisable, pas faisable ? Parce qu'on on a déjà réfléchi à quelques trucs, donc on a des idées, tu vois.
Ouais.
Et c'est ce qu'on va essayer de proposer là, en septembre.
Mmh.
Et ensuite, bah, c'est sûr que c'est une bonne idée de montrer les externalités, ce qui est... Et c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir.
Ouais,
on pourrait en fait se lancer dans quelque chose, ça serait le prix libre ou le prix en conscience.
Ouais.
C'est quelque chose qui est risqué, quoi.
Ouais. Bah, oui. Ouais.
Mais ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire.
Mm-hmm.
Et donc tu proposes un produit, tu mets pas de prix.
Mm.
Tu dis juste, bah voilà, ce produit il est fait par telle personne, et voilà toute la chaîne de valeur.
Mm-hmm.
Toi tu mettrais combien en fait ?
Ouais.
Et nous, par exemple, quand on voit H&M qui produit un t-shirt bio à 8 euros, on se dit, mais comment c'est possible ? Comment ils ont fait, quoi ?
Ils perdent de l'argent sur le t-shirt bio parce qu'ils font des marges énormes sur le t-shirt de mauvaise qualité avec un...
Franchement, je sais pas. J'ai vraiment, honnêtement, là, je me dis, mais comment c'est possible ? Parce que tu dois... Si tu veux qu'on fasse toute la chaîne de valeur ou pas ?
Ouais, bah oui, allons-y.
Alors, si on refait à l'envers, quoi. Donc, il y a une personne qui te vend un t-shirt à H&M.
Mm.
Donc, il y a quelqu'un qui a un salaire parce qu'il te vend ce t-shirt.
Ouais.
Ensuite, j'imagine même pas la logistique pour l'amener.
Mm.
Et les mecs doivent payer aussi le magasin Champs-Élysées, j'imagine. Rien que ça, c'est déjà un coût énorme.
Ouais.
Ensuite, derrière, il y a le transport pour amener cette marchandise-là. Donc, il y a quelqu'un qui va transporter ça. Donc, c'est par avion, j'en sais rien.
Mmh.
Et ensuite, on revient, on arrive à peu près à l'étape de confection.
Mmh.
Donc là, tu as des centaines de personnes qui vont faire la confection de, on va dire, des milliers de t-shirts.
Ouais, dans des conditions qu'on sait,
sociales,
environnementales, déplorables.
Mmh. On remonte, on va arriver à ça qui va couper les parties du t-shirt. Ensuite, après, ça va être tissu, donc ça va être la teinture. Donc, tous ceux qui vont faire la teinture. Donc, dans la teinture, tu as des pigments.
Ouais.
Donc, ceux qui vont... récolter les piments, faire tout ça. Et ensuite, tu remontes, c'est le tissage, l'agriculture, et voilà.
Mmh.
Et ça, 8 euros.
Mmh.
Je n'ai aucune idée comment c'est possible de faire ça, quoi.
Ouais. C'est là qu'on voit à quoi tient le greenwashing, en fait. C'est qu'ils vont beaucoup communiquer sur leur collection bio, sur laquelle, ça se trouve, ils perdent de l'argent, et c'est encore même pas sûr. Et puis qui répercute, qui récupère en fait le manque à gagner sur les marges
c'est
qui
possible,
sont faites ailleurs.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est. On se fait avoir.
Tu te fais avoir en fait aussi sur le bio. Et ça, c'est plus complexe pour les clients de savoir. Parce que dans bio, c'est pas une certification en soi.
Mmh.
Et donc bio, en fait. T'as des réglementations, j'imagine, t'as dû voir ça.
Mmh.
T'as des réglementations qui sont par pays.
Mmh.
Genre, le bio, en fait, t'as aussi des pesticides, mais en Inde, t'as peut-être 5 fois plus de pesticides sont autorisés qu'en France.
Mmh.
Ensuite, t'as pas des règles environnementales. Donc, par exemple, t'as un exemple du coton bio qui a été fait au Pakistan, je sais.
Ouais.
Et en fait, pour faire le coton bio, donc ça demande énormément de ressources en eau, et ben ils ont asséché une rivière qui a du coup créé des énormes problèmes dans la vallée, parce qu'il y a des villages qui n'avaient plus d'eau pour vivre, mais le coton est bio.
Ouais.
Et donc sans certification, en fait, c'est pas
ouais,
super,
et puis sans une vision globale, ouais, voilà, de tout ça, c'est pleinement de l'arnaque, quoi.
Ouais.
Et alors, ce que j'aime bien aussi dans ta vision, c'est que tu fais vraiment tout de suite et à chaque fois le lien entre de l'agriculture au produit, donc de la terre à nos habillements. Et je pense qu'en 2050, ça va être un des enjeux, alors pour la mode, mais pour tous les sujets finalement, de reconnecter en fait le point de départ, que ce soit pour les technologies avec les terres rares, on parle bien de sol, de ce qu'on a sous nos pieds, et donc voilà, de... du sol, de la terre, de la planète.
Quoi. Ouais, un t-shirt, ça vient de la terre, quoi.
Exactement, ouais. Et de reconnecter ça, je pense que c'est aussi un des enjeux, et ce qui peut aider quand tu parlais d'être en plus local. On pourrait imaginer de dire, ah bah tiens, c'est l'agriculteur de derrière chez moi qui fait du chanvre, par exemple, et ben voilà, j'ai ma chemise en chanvre, elle vient de là, et on recrée du lien comme on l'a fait en circuit court sur l'alimentation.
Ouais, et après, ce qui est intéressant, c'est que dans l'alimentation, tu as aussi des parallèles assez cool, parce que tu peux en fait faire des tissus à partir de déchets alimentaires. Mmh. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir. Ouais. Pour l'instant, c'est pas un niveau industriel, donc ça coûte super cher. Mmh. Mais par exemple, tu peux faire réutiliser de la peau de pomme, peau d'orange, de l'ananas pour faire une sorte de cuir.
Ah oui, j'ai vu ça, oui. Ça, j'ai vu un article là-dessus avec l'ananas.
Pignatex. Ouais. T'as plein en fait de liens finalement quand on réfléchit juste aux déchets. Mm-hmm. On peut faire plein de choses et dont des vêtements ou ultimement tu vois des isolants. Mm-hmm. pour bâtiments.
Ouais. Donc finalement on pourrait même imaginer en 2050 que localement, même à l'échelle d'un village, d'une ville, par l'organisation du recyclage de nos déchets alimentaires, qu'il y ait des filières locales, comme tu parlais d'économie circulaire. Certains produits vont aller vers l'isolant, d'autres vers une filière locale de mode.
En fait, ils s'orientent tous. Ce qu'on voit pour l'instant, donc, l'exemple du Tencel, mm-hmm. c'est assez parlant.
Oui, alors moi, j'ai découvert, grâce à Atelier 1, le Tencel. Tu peux nous en dire deux mots?
Ouais. Du coup, le Tencel, ça vient de la fibre de l'eucalyptus, ouais. Et c'est la fibre qui est récupérée et qui est changée sous forme de pâte. Mm-hmm. Et ceux qui font ça, c'est Lenzing. Et en fait, Lenzing, avant, ils faisaient leur expertise, c'était de la pâte à colle.
D'accord.
Ouais. Ils se sont juste dit, c'est pas cool la pâte à colle, ça a beaucoup d'externalités négatives. Mm-hmm. Nous, on a une expertise de pâte. Ouais. Comment on peut changer ça? Mm-hmm. Ils ont trouvé du coup que le tissu pouvait fonctionner avec leur expertise à eux. Mm-hmm. Et donc, ça devient de la pâte qui est ensuite pressée. Et en fait, ça devient une sorte de pâte fibreuse. Mm-hmm. Et on arrive au fur et à mesure au fil. Et ensuite, c'est tissé et ça devient du coup du tissu Tencel.
Ouais.
Et le tissu, en fait, en soi, du coup, il a des propriétés assez exceptionnelles puisque c'est un tissu qui est à la fois frais, thermorégulant. Donc, s'il fait chaud, il est frais. S'il fait frais, il est chaud. Ouais. il est fluide. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de le repasser. Et... Et tu n'as pas besoin en fait, de faire beaucoup d'irrigation parce que l'eucalyptus, c'est un arbre naturel. Vrai. Et donc, du coup, ta ressource en eau, c'est, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est 10 fois au moins inférieur à celle du coton.
Ouais.
Et tu n'as pas besoin de pesticides. Donc, c'est assez incroyable. Et moi, je crois vraiment en fait, à cette expertise de pâte. Parce que finalement, tu peux faire ça avec ce que je t'ai dit sur... des pâtes de déchets de pommes, de déchets d'ananas. En fait, tout ce qui est déchet, tu le remets sous une forme, en fait, sous forme de pâte. Et en fait, à la fin, ça devient un nouveau matériel.
Mmh. Ouais, donc, il y a plein de perspectives là-dedans, quoi. Moi, je suis assez partante pour ce monde en 2050. parce que je saurais reprendre mes vêtements. Ça va être un sacré chantier, mais ça me plairait. Une mode plus diversifiée. Et en plus, cette diversification, je pense aussi elle est plus satisfaisante pour chacun de se dire « Ah tiens, j'ai un truc là, tout le monde ne va pas avoir le même, etc. » Donc ça, on se satisfera de ce qu'on aura. On n'aura pas besoin tout le temps de courir après des pièces, etc. dans notre dressing. Donc merci pour cette vision. Mais avant de se quitter, Mathieu, il faut que tu formules un vœu pour 2050.
Un vœu pour 2050. D'accord, c'est que chacun devienne un créateur de mode.
Ah ouais.
On n'a plus besoin finalement. La création, tu veux que je continue?
Non, vas-y, si tu veux développer.
La création, ultimement, nous on la voit au début comme pour être créateur, il faut être professionnel, il faut que ça soit ta profession. Mm-hmm. Mais en fait, pas du tout besoin quoi. Mm. Tu peux être juste un amateur créateur et ça marche très bien. Donc tout le monde peut être créateur.
Ouais, bah, c'est enthousiasmant. Merci. Merci à toi, Mathieu.
La question à se poser est donc, suis-je capable de reprendre mes vêtements ? Me concernant, la réponse est clairement non. Et vous ? Pour autant, je tente le plus souvent possible de ne pas me mentir à moi-même et de faire la différence entre désir et besoin. La prise de conscience est là, reste à améliorer encore les chemins de la consommation. Ah, la mode, la mode, la mode. Une de nos meilleures ennemies. Dites-moi d'ailleurs, sur mon répondeur ou sur les réseaux sociaux, quel rapport vous entretenez avec vos fringues, quelles sont vos habitudes d'achat, quels sont les défis que vous souhaitez relever. Moi, j'ai prévu en 2020 de tenir un suivi exhaustif de mes achats, s'agissant des fringues et de la cosmétique aussi. Besoins, plaisirs, neufs, bio, déchets, etc. Histoire de savoir exactement où je vais. Mais au fait, nous sommes mi-décembre, peut-être avez-vous encore quelques cadeaux à offrir. Cette année, j'ai misé sur du 100% livre, pour être utile, pour ne pas générer de déchets ou presque. Et après cette discussion avec Mathieu, j'ai vraiment envie de concrétiser une petite idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Alors, j'y vais. Je vais vous proposer, de temps en temps, de petits concours, des petits jeux pour gagner. Roulement de tambour, pour gagner des livres, mais pas n'importe quel livre, puisque je vous propose de gagner des livres qui sont dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque à moi, celle qui est sacrée là. Alors ce n'est pas du sponsoring, ni du partenariat, ce sera d'ailleurs des livres d'occasion, les miens, un peu cornés sans doute, parfois annotés, mais aimés à coup sûr. Alors ça va se passer sur les réseaux sociaux, donc soyez aux aguets. Avant de vous laisser, j'ai envie de vous dire merci d'être là, merci d'écouter les personnes qui acceptent de m'accorder du temps, merci de regarder avec moi cet horizon qui semble souvent lointain, hors de portée, alors qu'en fait, ici et partout où nous sommes, nous le construisons, nous l'inventons à chaque instant, parfois sans le savoir et parfois aussi avec tout notre cœur. Donc merci, voilà, il y a des jours comme ça où on ressent le besoin de remercier. Eh bien c'était aujourd'hui. Reste pour finir ma petite prière, ubi et orbi, soyons toujours curieux.